Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Les funérailles ce matin du pape émérite Benoît XVI. Je pense qu'il était un pape à la hauteur du message du Christ. Des mots du grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, qui déplore un affaiblissement des échanges entre chrétiens et musulmans. Il sera l'un de nos invités. Un adolescent palestinien a été tué ce matin par des tirs de soldats israéliens. C'est arrivé à Naplouse, en Cisjordanie occupée. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, se rend au Maroc ce jeudi et ce vendredi, sa première visite dans le pays. La grève des médecins libéraux en France, ils manifestent aujourd'hui à Paris et souhaitent un doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. L'invité de Pluriel hier soir était Denis Ostorun, maire PCF de Bonneuil-sur-Marne. Il est notamment revenu sur les pouvoirs du maire en matière de logement. Extrait dans votre édition. Les obsèques du pape émérite Benoît XVI ont eu lieu ce matin. Des funérailles présidées par le pape François, place Saint-Pierre à Rome, devant de nombreux invités et représentants religieux du monde entier. Plusieurs représentants musulmans de France ont adressé leurs hommages à l'annonce de son décès le 31 décembre dernier. Entretien avec le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou.
Je retiens tout d'abord le courage d'un homme qui reconnaît ses limites, donc dans le sens où il a démissionné, sachant qu'il croit qu'il ne peut pas assumer sa fonction dans un moment très sensible de l'histoire de l'Église. C'est un théologien, fondamentalement. Ce n'est pas un homme de communication, comme les autres papes. C'est quelqu'un qui a toujours essayé de renouer avec la tradition, tout en restant dans l'esprit de Vatican II. Donc il a essayé un peu de réconcilier entre les traditionalistes et les catholiques qui sont modernes. Et apparemment, il a trouvé une certaine difficulté à mon sens. Deuxièmement, c'est quelqu'un, à juste titre, qui a insisté sur la place de la raison dans l'économie de la foi. C'est très important cette approche-là, parce qu'un théologien est fondamentalement quelqu'un qui introduit la raison dans le métabolisme de la foi. Même s'il a donné un exemple de l'islam qu'il considère comme une religion qui ne donne pas assez d'importance à la raison, ce qui est faux. Toute la scolastique chrétienne a été fondée dans la rencontre avec les penseurs arabo-musulmans comme Averroès, Avicenne, etc. Donc à ce titre-là, il a commis une certaine erreur et puis il a réparé par la suite dans son investissement dans le dialogue islamo-chrétien.
Et notamment lorsqu'il s'est rendu à la mosquée bleue à Istanbul.
Voilà, c'est ça. Et puis, il a tout à fait raison d'introduire la raison, sinon la foi, parfois, s'il n'est pas éclairé par la raison, devient aveugle et ça pousse justement au fanatisme et au terrorisme et à la violence. Et donc, à cet égard-là, il a resté fidèle à la théologie, à la scolastique. On le trouve également chez les musulmans, cette théologie et droit canonique qui amortit la charge normative et la théologie également qui relativise les dogmes. Malheureusement, aujourd'hui, les religions, notamment le christianisme et l'islam, étant des religions universalistes, il leur manque justement cet aspect de la théologie spéculative qui modère les convictions. Et je pense qu'il a marqué à sa manière l'histoire de l'Église, en essayant justement d'attirer l'attention à cet aspect-là, celui de la raison et la foi.
Et il a ravifié le dialogue islamo-chrétien ?
Oui, il a donné des consignes très fermes. Et à son époque, il y a eu vraiment un mouvement de dialogue islamo-chrétien. On l'a senti en tout cas en France. Sa période de son règne, entre guillemets, était fertile à cet égard-là. Donc, on l'a senti que vraiment, il a donné des consignes, l'Église a donné des consignes très intéressantes à cet égard-là. Malheureusement, ce dialogue islamo-chrétien, il est en train de s'éteindre doucement. C'est mon constat personnel, je le regrette. Il y a une forme de crispation à la fois chez les musulmans, à la fois chez les catholiques. Il faut surmonter cette crispation-là et revenir à un dialogue islamo-chrétien sincère et profond.
Cela malgré les actes des différents responsables religieux, et notamment du pape François.
Oui, mais il y a une résistance à l'intérieur du catholicisme. Aujourd'hui, on le sent. Il y a beaucoup de catholiques qui ne se reconnaissent pas dans le discours du pape actuel. C'est dommage. C'est dommage. Malheureusement, je sens qu'il y a un désir de retour à un catholicisme d'avant Vatican II. Peut-être la présence de l'islam a catalysé cette crispation identitariste chez une minorité, bien sûr, de catholiques. Mais comme vous le savez très bien, ce sont les minorités, malheureusement, qui font les événements. Donc oui, je sens qu'il y a un épuisement du dialogue islamo-chrétien, qu'il faut catalyser, qu'il faut renforcer et surmonter les crispations et la tentation du repli.
Et c'est un dialogue que vous-même, vous tentez de raviver en tant que grand imam de Bordeaux.
C'est nécessaire. Nous sommes deux religions très importantes, universalistes, et à cet égard-là, le dialogue n'est pas une option, c'est une nécessité théologique, civilisationnelle. Nous sommes obligés, moralement, de nous investir dans le dialogue islamo-chrétien.
Vous êtes théologien, Tarek Oubrou. Est-il important également de mettre davantage en lumière des figures communes des musulmans et des chrétiens?
Les religions en général ne dialoguent pas entre elles, ce sont les hommes qui dialoguent entre eux. Et donc c'est des hommes traversés par des convictions de leur religion qui se rencontrent. Moi, je crois en la qualité de l'homme. Je pense que s'il y a des hommes sincères, oui, ce dialogue peut s'effectuer. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a des gens qui aiment la rencontre, qui aiment le dialogue. Dans les deux côtés, chez les musulmans et chez les chrétiens, et notamment chez les catholiques. Il y a une certaine fatigue due au climat politique, l'immigration, le terrorisme, etc. Et vous savez très bien que les croyants sont plus travaillés par les instincts que par la foi. Et malheureusement, quand on est dans une crise identitaire, politique, économique, les gens ont tendance un petit peu à se renfermer, à renfermer sur eux-mêmes. Et c'est la religion qui paye le prix. Donc il faut que les églises, les religions, les religieux ne succombent pas à cette tentation de convoquer la religion pour renforcer les frontières entre les religions.
Cette fatigue, vous la constatez en France, mais aussi au-delà des frontières de l'Hexagone?
Je pense que tous les pays qui vivent une crise d'immigration, justement, ont tendance un petit peu à se renfermer sur eux-mêmes. Les appels du pape ne sont pas tout le temps entendus par les fidèles chrétiens, notamment catholiques, parce qu'ils vivent au quotidien des difficultés. Et donc, vous savez, un croyant, il est partagé entre sa foi et sa condition socio-économique. Et quand il y a une crise socio-économique, parfois la foi n'arrive pas à surmonter cette tentation de repli sur soi.
Et lorsque, comme en ce moment, vous rendez hommage au pape émérite feu Benoît XVI, vous participez à ce dialogue et à son émergence?
C'est une nécessité morale, existentielle. Et le pape Benoît XVI a amorcé ce mouvement qu'il faudrait continuer, ne pas abandonner, parce que c'est l'héritage de ses enseignements. Donc effectivement, même s'il a commencé son apostolat, comme on dit, par une maladresse à l'égard des musulmans, il a vite réparé ce malentendu. Et au contraire, il a dopé le dialogue islamo-chrétien. C'est ça que je retiens de lui, le courage quand il a démissionné, l'introduction de la raison dans le rapport à la foi et le dialogue islamo-chrétien.
Et son humilité également, qui est souvent mise en lumière.
Tous les papes étaient, de par leur fonction, dans l'humilité. Moi-même, j'ai rencontré l'actuel pape, qui est d'une grande modestie et humilité. Donc, ce sont des papes qui honorent le message du Christ, pourvu qu'il soit suivi par les fidèles.
Vous avez récemment dit que le pape Benoît XVI était à la hauteur du message du Christ.
Je pense que leur discours a toujours été franchement inscrit dans l'espérance, la charité et la foi, les trois vérités théologales, comme on dit en catholicité. Toute leur mission gravite autour de ces trois missions importantes, la foi éclairée par la raison, l'espérance, parce que c'est très important d'espérer, c'est un catalyseur de l'action. Et puis la charité. Au-delà de la justice, il faut avoir un rapport de solidarité, de charité avec autrui.
Ce jeudi, lors des obsèques de Benoît XVI, quel message vous souhaitez délivrer à l'ensemble des fidèles des différents cultes ?
Ben, rester fidèle au message du pape qui vient de nous quitter, qui était dans la ligne droite du message de la bonté, de la miséricorde, de la maîtrise, de la passion par la raison. Il faut écouter ces papes parce que véritablement, ils parlent en même temps aux catholiques, mais ils parlent à toute l'humanité. Ils honorent ainsi le message universel du christianisme.
Le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Un adolescent palestinien a été tué par des tirs de soldats israéliens. C'est arrivé à Naplouse, en Cisjordanie occupée. Des affrontements ont, selon le ministère palestinien de la Santé, opposé l'armée à des combattants locaux. Dubaï annonce un plan visant à doubler la taille de son économie en 10 ans. Objectif, propulser le riche émirat du Golfe parmi les principaux centres financiers du monde. Dubaï mise sur le commerce extérieur et les investissements. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell se rend au Maroc ce jeudi et ce vendredi. Sa première visite dans le pays, notre partenariat, dit-il dans un entretien accordé au quotidien Le Matin, est naturel et stratégique parce qu'il repose sur trois grands piliers, notre proximité géographique et notre histoire commune, un intérêt mutuel de préserver la paix et la sécurité. L'inquiétude du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie sur les perspectives pour 2023 dans le pays. Il estime que cette année sera difficile dans un contexte de faible croissance et forte inflation, sans un accord rapide avec le Fonds monétaire international pour un prêt. Reporters sans frontières saisit l'Organisation des Nations Unies après l'incarcération en Algérie du journaliste et patron de presse Hissan El Kadi. Il est en détention depuis le 29 décembre dernier. Il fait l'objet de poursuites sur la base d'articles du Code pénal relatifs aux publications et aux dons. RSF dénonce des poursuites fallacieuses qui visent à le réduire au silence. La grève des médecins libéraux en France. Ils manifestent aujourd'hui à Paris et souhaitent un doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Le ministre de la Santé, François Braun, se dit favorable à une revalorisation, mais pas à hauteur de 50 euros. Des négociations conventionnelles entre les différents syndicats de médecins et l'assurance maladie sont en cours jusqu'au mois de février prochain. L'invité de Pluriel hier soir était Denis Ostoroun, maire communiste de Bonneuil-sur-Marne. Il est notamment intervenu sur le pouvoir du maire en matière de logement. Extrait de cette émission.
Comment on construit des logements? Je vais vous dire tout simplement. D'abord, en nous battant contre les promoteurs qui ne se rechignent pas, qui n'ont pas forcément tous, en tous les cas, les mêmes éthiques. D'abord, on maîtrise le patrimoine existant dans notre ville, en tous les cas le patrimoine libre, pour ne pas laisser les spéculateurs faire leurs affaires tout en augmentant les prix. Donc faisons en sorte que les couches moyennes et les populations les plus précarisées soient dans l'obligation de partir de notre ville. C'est un premier point. Deuxième point, nous sommes déjà sur une phase de rénovation des grands ensembles pour tout ce qui est logements sociaux. Derrière, donc, il y a des démolitions. Par exemple, il y a un projet de la LPNRU. On va démolir un peu plus de 432 logements. Là, il nous reste 336 logements à démolir. Mais vous imaginez bien que si on démolit tous ces logements, c'est aussi pour en reconstruire des logements qui soient plus adaptés à notre siècle, aux questions écologiques, qui soient aussi plus respectueux de l'environnement. Et à côté de ça, on travaille la mixité sociale, parce que quand on a 70% de logements sociaux, on a aussi le besoin de construire notamment des réponses par rapport aux couches moyennes, aux jeunes familles qui essaient de s'acheter un appartement parce qu'ils n'ont pas énormément de moyens, mais ils en ont quand même. Donc du coup, on favorise beaucoup l'accession sociale à la propriété sur cet aspect-là. Beaucoup d'enfants du Val-de-Marne ou de la ville de Bonneuil-sur-Marne, grâce au prix que nous maîtrisons, peuvent avoir accès justement à la propriété, sociale ou en tous les cas à taux zéro. On travaille aussi beaucoup à la location libre ou intermédiaire pour pouvoir répondre à tous ces besoins, parce que aujourd'hui, un couple qui travaille à deux n'a pas forcément l'éligibilité pour aller dans un logement social, notamment avec la malheureuse et néfaste loi Boutin qui a énormément cassé la mixité sociale dans les logements sociaux. Aujourd'hui, il y a des règles qui nous sont imposées. Mais nous avons, nous, envie et besoin de maintenir tous les enfants de Bonneuil qui veulent rester à Bonneuil, soit en accession sociale à la propriété, parce qu'ils n'ont pas forcément énormément de moyens, mais soit aussi en location intermédiaire comme ou en location libre. Donc on construit par rapport aux besoins de notre population, mais tout en essayant aussi de trouver des réponses par rapport à une certaine population qui ne peuvent pas forcément avoir droit de cité à Paris ou dans des villes à côté dont je ne citerai pas les noms, mais qui, à bon oeil, trouvent les financements nécessaires et les prix maîtrisés pour pouvoir y avoir droit. Voilà. C'est comme ça, c'est en maîtrisant le patrimoine, en ne laissant pas faire les promoteurs ce qu'ils veulent, et surtout en ayant beaucoup de courage politique, je pense qu'il en faut. C'est pas évident d'expliquer soit aux institutions, soit aux promoteurs, soit à d'autres, et parfois à notre population, que oui, nous faisons en sorte de préempter des terrains qui sont en deçà des propositions que les promoteurs peuvent faire, mais c'est surtout pour l'intérêt général. Et malheureusement, ou heureusement, prenez-le comme vous le voulez, la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général. Moi, je suis le maire de l'intérêt général, donc du coup, j'assume tout à fait ma position et je continuerai, tant que je serai maire, à faire en sorte que ma population et toutes les populations qui voudront venir vivre à Bonneuil puissent avoir les moyens de vivre à Bonneuil. Je ne laisserai pas, en tous les cas, la chasse aux pauvres, la chasse aux couches moyennes, se faire dans ma ville.
Denis Ostorun, maire communiste de Bonneuil-sur-Marne, il était l'invité de Pluriel hier soir, émission présentée par Loïc Barrière, émission disponible sur votre site internet radioorient.com. Et si on en parlait à 19h et 23h, après le retour de Benjamin Netanyahou en Israël, quelle perspective ? Ce sera le thème de cette émission présentée par Alexis Bachelet. Il recevra Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS, et Sylvain Sipel, journaliste à Lorient 21. Vous êtes bien sûr Radio Orient, à 12h30 votre journal en langue arabe avec Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Il est 12h17, très bon début d'après-midi.